Quand nous pratiquons Zazen, nous pouvons faire la même expérience que le Bouddha Shakyamuni. Nous pouvons nous éveiller au fait que tous les phénomènes sont impermanents et donc sans substance. S'éveiller à cela, ce n'est pas seulement le comprendre. Le comprendre intellectuellement, tout le monde peut le faire. Mais le comprendre, c'est-à-dire vraiment l'intégrer dans sa vie, le prendre avec soi. Et donc, en tirer toutes les conséquences pour notre manière de vivre, ça c'est réellement réaliser le même éveil que Bouddha. Cela implique de voir que notre ego n'est rien de substantiel. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'ego. Mais c'est simplement une construction mentale. Ce qui constitue cet ego, ce sont 5 agrégats, 5 skandhas, qui eux-mêmes sont impermanents et sans substance. Le corps, les sensations, les perceptions, les volontés, les désirs, et la conscience de tout cela. En Zazen, on peut constamment vérifier que notre propre ego est insaisissable et que ce qu'il constitue l'est également. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Nous avons besoin de cet ego en tant que construction mentale, identité personnelle, pour fonctionner en société, nous relier aux autres. Mais le fait d'avoir profondément compris que notre propre ego est sans substance et complètement impermanent nous libère de beaucoup d'attachements, de la plupart de nos attachements, et permet de vivre en harmonie avec ce qui est la réalité profonde de notre existence. Pour comprendre que le fait que notre ego existe mais soit sans substance, on l'a parfois comparé, on a pris l'image d'un fleuve. Ou d'une rivière. Par exemple, le Var est bien identifié comme une rivière qui prend sa source en montagne, qui se jette dans la mer à Nice. Il a un parcours plutôt stable, mais l'eau qui s'y écoule, qui constitue à proprement parler la rivière, se renouvelle constamment, comme nos sensations, nos perceptions et nos pensées. Et cela, on peut vraiment le ressentir en Zazen. Pour autant, ça ne veut pas dire que nous ne soyons pas responsables de ce que nous faisons et de ce que nous disons. Dire il n'y a pas d'ego, donc ce n'est pas moi qui ai volé. Ce n'est pas moi qui ai menti, ce n'est pas moi qui ai enfreint les préceptes. Ça aurait été une erreur. Il y a donc bien quelque chose d'une identité personnelle qui perdure dans l'impermanence. C'est-à-dire que je ne suis pas un autre, je suis moi, mais je ne suis pas toujours exactement le même. Le Var est le Var, c'est pas le Rhône, mais l'eau qui s'y écoule se renouvelle constamment. Parfois, elle est abondante, parfois presque tarie. Il en est de même pour notre énergie, pour notre activité, pour notre conscience, parfois extrêmement vigilante, d'autres fois un peu endormie. Mais lorsque je parle, lorsque j'agis, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui le fait à ma place. Il y a bien une identité différente de chacun. Et on doit en prendre la responsabilité. Mais le fait que ce qui constitue cette personnalité, cette identité, soit impermanent et sans substance fixe, permet la transformation. C'est évidemment ce qui occasionne des pertes, mais c'est aussi ce qui permet le changement. On ne peut pas dire « je suis comme ça » et « je n'y peux rien ». Comme cela est lié à un certain nombre de causes et de conditions, qui sont elles-mêmes impermanentes. Le fait de pratiquer Zazen chaque matin devient aussi une cause et une condition qui permet de se transformer. Donc l'impermanence, lorsqu'on en est vraiment conscient, est une source de libération, mais ne doit pas causer une attitude d'irresponsabilité. Bien que mon ego soit impermanent, j'assume ce que je fais et ce que je dis. Mon karma. Et j'assume également le fait qu'il peut se transformer et que je pratique de telle sorte que sa transformation puisse s'effectuer réellement.